Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Salut à tous, bienvenue dans Fun for You. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour Fun for You, votre rendez-vous avec la santé, le bien-être et la vie intime. Fun Radio. Pour m'accompagner, aujourd'hui, j'accueille notre psychologue Pénélope qui est avec moi en studio. Bonjour Pénélope.
Salut Simon.
Il y a quelques semaines dans Fun for You, avec toi d'ailleurs Pénélope, on s'est intéressé à la phobie sociale et on s'est dit qu'on allait un petit peu plus loin. On va s'intéresser aujourd'hui à l'anxiété et aux troubles anxieux. Mais avant de démarrer, finalement, c'est quoi les troubles anxieux?
Alors, je vais d'abord te faire un petit récapitulatif historique. J'aime bien, tu sais, faire ce genre
c'est vrai,
de choses.
Tu fais bien, finalement, voilà. Un peu de culture.
Et donc, le concept d'anxiété au sens vraiment pathologique, ça remonte à la fin du 19e siècle. Et c'est Freud qui va en parler.
Vous
connaissez tous Freud, évidemment, qui va parler de la névrose d'angoisse. Donc ça, c'est les premières descriptions au niveau de l'anxiété. Et puis, progressivement, au niveau psychiatrique, on va catégoriser cette anxiété suivant différents troubles, si tu veux. On va les reconnaître de manière plus importante. Et puis, on va pouvoir vraiment distinguer les différentes manifestations qu'on va y retrouver. Et donc, je viendrai tout à l'heure avec les différentes catégories que tu peux retrouver dans les troubles anxieux, comme la phobie sociale dont on a déjà parlé, mais il y en a d'autres évidemment. Et donc, cette définition, si tu veux, du trouble anxieux, elle va vraiment apparaître dans le fameux DSM, dont je parle souvent. DSM qui est donc le livre diagnostique des maladies psychiatriques.
DSM-5, non?
Alors, non, là, c'est... Oui, alors aujourd'hui, on est au DSM-5. Mais à l'époque, il va
c'était
sortir
premier,
pour la première fois, non, dans le DSM-3.
Parce
que si on est au 5, il y en a eu plusieurs avant. Donc, autour des années 80. Et donc là, on va vraiment avoir une conceptualisation beaucoup plus moderne de l'anxiété. Alors, tu as différentes conceptions, si tu veux, autour des troubles anxieux. Alors, c'est lié en général au type d'orientation thérapeutique, si tu veux, ou de formation thérapeutique du soignant. Donc, il y a des conceptions qui sont de l'ordre de la psychodynamique. Donc là, on fait plus référence à la psychanalyse, si tu veux. Et donc, pour cette catégorie-là, on considère que l'anxiété, ça vient de conflits inconscients, donc de ce qui se passe un peu dans notre tête ou à l'arrière de notre tête, et de mécanismes de défense, la manière dont on va réagir face à certaines choses. Alors, par exemple, un mécanisme de défense, c'est dans une situation grave et tu te mets à rire. Alors, c'est complètement inadéquat, mais ça te permet de te défendre de la situation. Et donc, quand on a ces conflits et des mécanismes de défense qui ne sont pas adaptés, alors on peut avoir une angoisse qui, elle, est censée t'indiquer qu'il y a un danger au niveau psychique. Donc ça, c'est l'orientation, c'est un peu complexe, j'espère que tu comprends tout.
Je comprends toujours tout avec toi, Pénélope.
Alors après, on a des conceptions qui sont plutôt comportementales, et donc là, on est dans l'idée qu'il y a un conditionnement qui va se faire, et qui va expliquer comment la peur se crée, si tu veux, et comment elle va faire que certains comportements vont se maintenir. Donc, par exemple, on a peur de quelque chose, on a appris... Alors, je vais prendre un exemple assez typique. Moi, j'ai une mère qui a peur des araignées.
Oui, c'est assez classique.
Voilà.
Finalement,
elle m'a bien expliqué, sans vouloir me le dire, parce qu'elle sait très bien que les araignées, c'est pas dangereux, mais il y a quelque chose qui va se poser dans un fonctionnement familial qui fait que les araignées, c'est pas top. Et donc, on va avoir certains comportements. Alors, on n'est pas à ce stade-là, mais j'ai déjà entendu des gens qui ont tellement peur des araignées qu'ils vont éviter certains espaces, par exemple, ne pas rentrer dans certains lieux en se disant, genre une cave, par exemple, au risque de croiser des araignées. Alors ça pourrait être, j'ai pris des araignées, mais ça pourrait être le bus par exemple, des gens qui vont avoir peur
des transports
ou des accidents, et donc ils vont éviter certaines choses. Alors il y a une conception qui est plutôt cognitive, donc là... pour eux, le trouble anxieux va faire qu'on va avoir des distorsions au niveau de nos pensées ou ce qu'on appelle des biais attentionnels, c'est-à-dire qu'on va faire attention à certaines choses qui a priori passeraient un peu dans le tas, mais on va être plus focalisé sur cette chose, on va aller voir beaucoup plus comme une menace, et donc on va avoir des interprétations qui peuvent être catastrophiques ou qui vont générer des sensations corporelles. Et puis on a des concepts neurobiologiques à ce moment-là, où on est face à des déséquilibre au niveau de nos neurotransmetteurs, par exemple la sérotonine, la noradrénaline, et donc une hyper-réactivité de tout ce qui est structure cérébrale comme l'amygdale. L'amygdale qui est un petit bazar dans notre cerveau et qui est vraiment à la source de tout ce qui est primaire chez nous, si tu veux, de nos réactions primaires. Alors, comme je te le disais, j'avais parlé des différents troubles qui existent. Donc, on a par exemple le trouble panique. Et donc, on est dans l'attaque de panique. Donc, ça fait partie des troubles anxieux. Et donc, on sait que... on va avoir en tout cas une peur importante qui va, ou un malaise très important qui va se présenter pendant une période qui est limitée dans le temps, et on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Pour considérer qu'on est dans le trouble panique, il faut qu'il y ait quatre des symptômes dont je vais citer qui doivent apparaître de manière brutale et qui vont atteindre vraiment leur sommet à peu près dans les 10 minutes. Et donc on va avoir par exemple palpitations, battements de cœur, accélération du rythme cardiaque, de la transpiration, des tremblements, des secousses musculaires, des sensations de souffle coupé ou une impression d'étouffement et des sensations d'étranglement. On peut être aussi face à tout ce qui est douleur, gêne thoracique, des nausées, des gênes abdominales, des sensations de vertige, de l'instabilité, de la déréalisation, hein, sensation de perdre pied avec la réalité. On peut avoir peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, peur de mourir, avoir des paresthésies, ça c'est des sensations d'engourdissement ou des picotements que tu peux avoir dans les membres, des frissons ou des bouffées de chaleur. Donc ça c'est tout ce qui peut se présenter dans le cas d'un trouble panique. Si on en a quatre qui apparaissent en même temps, à un moment donné, face à une situation donnée, alors on peut envisager, ou en tout cas supposer qu'on est face à un trouble panique. On peut en avoir plus, évidemment, mais il nous faut minimum 4 pour parler d'un trouble panique. Quand on veut diagnostiquer un trouble panique, il faut que ces attaques de panique, elles soient quand même récurrentes et qu'elles ne soient pas prévisibles. Donc elles arrivent comme ça, tout d'un coup. Même si elles peuvent être déclenchées par des situations spécifiques, elles peuvent aussi apparaître de manière complètement aléatoire et à des moments où on ne les attend pas. En général, tu as des patients qui vont avoir une première attaque de panique, et comme ils angoissent à l'idée que l'attaque de panique revienne, en fait, ils préparent l'attaque de panique. Et donc, on rentre souvent dans un cercle vicieux. Donc, on peut avoir des attaques de panique, une attaque de panique qui arrive à un moment, ne plus en avoir pendant très longtemps, une deuxième qui apparaît. Et puis, en général, le temps se rapproche et les attaques de panique se rapprochent également, quitte à en avoir parfois plusieurs sur une journée. Alors, les situations les plus fréquentes où vont se déclencher ce genre de choses, c'est la conduite, le fait d'être dans un magasin bondé, hein, tu parlais de ce côté, beaucoup de monde, ça peut être présent. Et donc là, on est vraiment dans cette sensation de perte de contrôle, d'enfermement qu'on peut avoir et qui parle de ça. Ça doit être présent pendant au moins un mois, régulière, hein, pendant un mois. On doit avoir une anxiété très importante pendant à la fois pendant les attaques, mais aussi dans l'idée d'appréhender ces nouvelles attaques, avoir beaucoup d'inquiétudes par rapport à la crise cardiaque, au fait de devenir fou, des changements au niveau du comportement aussi qui vont faire que tu évites des situations que tu imagines comme risquées, et donc on est quand même chez des gens qui vont extrêmement souvent fréquenter des services d'urgence puisqu'ils ont peur régulièrement d'avoir un infarctus. Pour te donner une idée de combien de personnes souffrent de troubles paniques, on a sur une vie entre 1,5 et 3,5% de la population qui vont le présenter, et on le retrouve 2 à 3 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Les traitements qu'on va utiliser, c'est des traitements de type thérapie cognitivo-comportementale, donc on agit vraiment sur le comportement. On a, et c'est vraiment très très efficace dans ce cadre-là. Il y a aussi des traitements médicamenteux qui existent, et donc là, à ce moment-là, c'est important de s'adresser éventuellement à un médecin pour voir ce qui peut être mis en place, parce qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, et attention, parce qu'il y a certains traitements qui rendent dépendants.
Et on le sait, dans les troubles anxieux, on trouve également les phobies, hein, Pénélope.
Exactement. Alors c'est vrai qu'on parle toujours quand même de la peur, hein. C'est un peu la ligne de conduite, je vais dire, de tout ce qui est anxiété, trouble anxieux, phobie. C'est la peur qui va être première. Donc la phobie, c'est une peur très importante qui est persistante et qui est en général excessive, dans le sens quelque chose d'irrationnel. Je parlais des araignées tout à l'heure. Ici en Belgique, à rapport des araignées, il y a quelque chose d'un peu ridicule, étant donné qu'on risque pas grand chose. Il y a des pays
elles
où
sont petites, nos araignées, c'est vrai, hein,
Mais c'est surtout qu'elles sont pas dangereuses.
Oui. Tu risques pas. La dernière fois, j'ai trouvé une araignée verte chez moi. Celle-là, je l'ai encore en tête, hein. Celle-là, elle m'a vraiment fait flipper. J'ai ouvert ma porte, elle était juste juste à côté. Et autant te dire que...
Mais vert.
Elle était un peu... ouais, vert pomme, comme c'est un peu fluorescente. Je sais pas d'où elle venait.
Mais t'es sûr que c'était une araignée?
Oui, c'était, j'en suis persuadé.
Okay, okay.
Mais elle était pas très grande, par contre.
Rappelle-moi de ne plus jamais chez toi. Alors, cette peur, elle va arriver quand on est confronté à ce qui va la déclencher, évidemment. Hein. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une situation aussi. Hein. Par exemple, les avions, le fait d'être en hauteur, les injections. J'avais eu un patient comme ça qui avait une frousse bleue des prises de sang, enfin des aiguilles en règle générale. Et chez nous, on pique les patients absolument. En plus, du coup, le patient, tu peux imaginer, il n'avait plus fait de prise de sang depuis 1000 ans. Donc, ça a été toute une situation où on était trois quand même, deux infirmières d'un côté, moi psychologue de l'autre, pour essayer de faire en sorte que le patient puisse relâcher un peu. Donc on a réussi.
Et moi, je veux dire que j'ai un petit peu ça. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait plusieurs prises de sang à une époque parce que j'en fais régulièrement. Et je tombais souvent dans les pommes au moment de faire ma prise de sang. Alors ça ne m'arrive plus aujourd'hui, mais dès que je dois faire une prise de sang, je ne sais pas si c'est la phobie de la prise de sang ou si c'est la peur de retomber dans les pommes. Alors qu'au final, c'est juste un petit instant, c'est pas très grave. Mais
c'est ce que je te disais avec tes attaques de panique. Cette appréhension de se dire mon Dieu, je vais tomber dans les pommes, te met déjà dans un état parce que tu prépares ton corps à ça, et donc forcément tu risques de reproduire ce qui s'est passé, alors que peut-être un jour, je sais pas, on t'avait retiré un peu trop de sang, t'avais pas mangé, et puis t'étais un peu.
C'est exactement ce qui s'est produit en plus de ça.
Et donc aujourd'hui, t'es peut-être super en forme quand t'arrives, mais tu te dis mon Dieu, que va-t-il m'arriver. Si tu veux, on peut en parler sur mon fauteuil. Et donc là, dans le cas de cette peur, on va avoir cette réaction anxieuse qui va être très rapide, qui va arriver tout de suite face à ce stimulus qui apparaît. Et c'est quelque chose qui va être systématique. On sait que dans ce cas-là, cette phobie peut amener à l'attaque de panique. Donc normalement pas, mais ça peut en arriver à ce stade-là. C'est important de reconnaître que cette peur, elle est excessive et irrationnelle. Bon, tu disais finalement, en plus la prise de sang, parfois les gens te disent « ça fait mal ». Bon, on va arrêter de déconner, non, ça fait pas mal.
Oui, non.
Ça fait un petit pic, quoi.
Qui dure vraiment 3 secondes. Hein,
oui, parce que tu te tapes un orteil contre un coin de table.
Ah oui, ça fait...
Voilà,
je suis d'accord. Mais ça c'est vraiment
mal.
Douloureux, par
voilà.
contre.
Et donc, c'est vrai que ça n'a pas nécessairement de sens d'être là-dedans, mais en fait, on ne sait pas faire autrement. On va voir vraiment que la personne va éviter tout ce qui va faire référence à la situation. Alors, on parlait des araignées tout à l'heure. Ça, c'est pas encore trop grave. Il y a quand même des phobies qui sont beaucoup plus problématiques parce que si on évite certaines situations qui se retrouvent, par exemple, dans la rue quand tu te promènes un peu tout le temps, je pense qu'une fois, dans des émissions passées, il y a très longtemps, on avait fait référence à la phobie des pieds.
Oui.
Voilà. Et donc, quand t'es en été et que tout le monde est en sandalette, il y a un risque que tu te mettes vraiment en décalage par rapport à ça. Et donc, finalement, de te mettre en difficulté dans ta vie, dans le quotidien. Donc ça va vraiment perturber la personne au niveau éventuellement professionnel, au niveau scolarité, au niveau social, et du coup forcément aussi être dans une souffrance psychique qui peut être très importante. Il faut faire toujours attention quand on diagnostique une phobie spécifique à ne pas l'expliquer par un autre trouble mental, des TOC par exemple qui peuvent être présents.
Mais j'ai récemment discuté avec une de nos collègues, je ne la citerai pas, mais elle a la phobie des nombrils. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les pieds, parce que quand t'as la phobie des araignées, tout le monde peut te comprendre, parce que c'est une phobie. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de phobie alors qu'ils n'ont pas vraiment la phobie des araignées, ils n'ont aucune difficulté à les éloigner de où elles se trouvent. Mais c'est un peu culturel, j'ai envie de dire,
oui,
la phobie des araignées, des serpents, ce genre de choses. Mais quand il y a quelqu'un qui vient te dire, j'ai la phobie des pieds, j'ai la phobie des nombrils, des fois, on les prend pas vraiment au sérieux. Par exemple, je pense à la chanteuse Louane, elle a la phobie des bananes. Les gens doivent le prendre à la rigolade et certainement lui montrer des bananes, etc. Alors que si c'est une vraie phobie, ça doit être quand même vachement compliqué à vivre.
Oui, mais alors le nombril, c'est marrant parce que quand tu m'en parles, c'est un peu la phobie des trous.
Oui, oui, oui.
C'est une phobie qui est quand même assez courante. C'est vrai que le nombril, finalement, enfin, pas toujours, mais souvent, c'est l'équivalent d'un trou. Et donc, je pense que ça peut faire référence à d'autres choses. Donc, la banane, on pourrait imaginer l'objet phallique. Hein,
oui, bien sûr.
Et dans les phobies les plus courantes, tu parlais des araignées et des serpents, c'est les phobies les plus courantes. Alors, on sait que, par exemple, en général, les femmes ont peur des araignées, les hommes ont peur des serpents. Le serpent renvoie l'objet phallique, là où normalement, l'araignée renvoie la mère. On va pas faire de psychanalyse ce soir, mais en gros, il y a de cet ordre-là. Bon, après, on peut avoir la phobie des chiens, mais ça peut être parce qu'on a été mordu quand on était jeune.
Oui, bien sûr.
Je sais pas, peut-être qu'elle, on lui a fait manger trop de bananes quand elle était petite.
Peut-être.
Il s'est peut-être passé quelque chose. Il y a une association qui va se faire avec l'objet.
Donc, il y a des phobies qui peuvent se développer suite à des événements, ce genre de choses.
Ah oui, évidemment. Bah, tu te fais mordre par un chien, la probabilité, c'est que tu vas avoir peur des chiens. Et le risque, c'est que la peur augmente. Et puis, comme je disais, tu peux avoir une attention qui va se focaliser sur tout ce qui pourrait être problématique. C'est-à-dire que tu vas croiser 40 chiens. Il y en a 39 qui font rien du tout. Et puis, il y en a un qui a une attitude qui va être peut-être plus menaçante. Alors, pour une raison qui est pas nécessairement liée à toi. Mais ça peut alors venir confirmer quelque chose que tu pensais. Le chien, c'est dangereux. Et donc, on fait des raccourcis. T'as aussi, moi, j'y ai beaucoup pensé au moment des inondations à Liège. Je me suis dit, mais ces gens qui ont vécu ces inondations catastrophiques, enfin, vraiment, c'était un grand drame. Je me suis dit, mais chaque fois qu'il va pleuvoir, ça va être l'angoisse.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, j'y pense parfois en me disant, dans des environnements où tu as vécu des tragédies au niveau même catastrophe naturelle, ben, dès que quelque chose, alors que ça peut être une petite pluie toute simple et qu'il ne va rien se passer, ça peut rappeler ce genre de choses. Bon, je parlais des avions aussi. On a souvent plus peur des avions que d'être en voiture. Or, il y a plus d'accidents en voiture qu'en avion. Il y a aussi tout ce qui va être les tunnels, par exemple, les ascenseurs. Ça, c'est quand même extrêmement courant. L'ampère de l'enfermement. Et puis, tout ce qui va être la peur du sang, par exemple. Tu vois, les gens, dès qu'ils voient du sang et qu'ils se sentent très mal. Donc, finalement, toutes ces phobies sont quand même assez fréquentes. Mais tu peux en avoir qui sont un peu plus particulières.
Un peu insolites, parfois.
Voilà, un peu insolites par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Tout à fait. Et donc là, je disais, il y a différentes explications qui peuvent être au niveau, justement, comportemental ou au niveau biologique. Et on voit quand même que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la population générale. On est entre 11,3 et 19,8% de la population.
Ah ouais.
Même si ça peut varier au cours de la vie, hein, on peut ne pas avoir de ce genre de situation à un moment particulier. Et puis avoir un événement qui va créer cette phobie. Alors, quand on parle de phobie, je fais vraiment la différence entre avoir peur et avoir une phobie. Donc moi, j'ai peur des araignées, je suis pas phobique des araignées. Donc je vais pouvoir par exemple gérer, alors je suis désolée de le dire comme ça, c'est vraiment horrible, je les écrase. Parce que je trouve qu'elles n'ont pas à vivre chez moi.
Dit-elle en riant.
Non mais parce qu'en fait...
Oh, ils n'ont qu'à payer le loyer hein, finalement.
Intellectuellement, je sais à quel point l'araignée est quelque chose qui est extrêmement positif.
Oui.
Voilà, ça tue les insectes. Alors, je vous rassure, les faucheux par exemple, je peux les laisser dans un coin. Effectivement, ça bouffe tous les petits insectes qui passent chez toi, tu vois, en été quand tu laisses tes fenêtres ouvertes. Mais donc, je vais pouvoir gérer ma peur. Je vais pouvoir arriver à faire quelque chose, même si c'est en l'écrasant, désolé. Mais je vais gérer quand même la situation. Là où il y a des gens, c'est ils sont tétanisés, ils ne bougent pas, et c'est la panique totale. Donc, il y a vraiment cette différence. Quand on est dans la phobie, on est quand même dans une peur qui est extrême. Donc, il y a une différence entre avoir juste peur, ou que ça dérange, ou que ça dégoûte, et le fait vraiment d'être dans une incapacité à faire quelque chose quand on est face à ça. Donc voilà, après, il y a dans ce cadre-là où on est vraiment dans cette problématique très intense, de la psychothérapie qui existe. En général, on est aussi vers les thérapies comportementales. Il peut y avoir des tentatives de médicaments, mais en général, c'est assez peu efficace sur ce type de problématique. Et donc, moi, j'aurais tendance, oui, à aller vers des thérapies cognitivo-comportementale, en sachant que j'avais une collègue qui, elle, avait vraiment une phobie des araignées, et donc elle a traité ça, par exemple, avec l'hypnose. Donc ça, c'est quelque chose qui peut assez bien fonctionner dans ce cadre-là.
On entend aussi souvent parler de l'agoraphobie. Est-ce que ça rentre aussi dans tout ça?
Alors oui, effectivement, ça fait partie de tout ce qui est trouble anxieux ou de l'anxiété de manière générale, mais ça fait partie des phobies, agoraphobie. Et donc là, on est aussi dans une peur trop importante. C'est des situations où il va être compliqué ou embarrassant, parce que parfois tu peux pas vraiment sortir. Enfin, tu pourrais sortir, mais c'est quand même pas une bonne idée. Et donc de s'échapper ou de recevoir de l'aide si on a justement une attaque de panique. Et donc là, on va être par exemple dans tout ce qui va être peur des transports publics, des espaces ouverts ou des espaces clos. Le fait d'être dans la foule aussi fait partie de ça, ou d'être seul à l'extérieur de la maison. Ça, c'est vraiment ce qui okay. correspond à l'agoraphobie. En général, on est quand même dans des anxiétés aussi qui vont être très, très élevées, et ça peut avoir un très gros impact au niveau du fonctionnement quotidien, au niveau social ou au niveau professionnel. Et si tu veux, dans la lancée, alors plus tellement des phobies, mais de l'anxiété, il y a aussi tout ce qui est anxiété généralisée. Donc là, on va être dans une anxiété qui va être présente tout le temps, où le sujet n'arrive plus à rien contrôler. Donc là, on est face à de l'agitation, la fatigabilité, des difficultés au niveau de la concentration, l'irritabilité, des tensions musculaires, et évidemment une perturbation du sommeil. Donc là, c'est vraiment important de faire quelque chose, parce que ça devient en général extrêmement disproportionné par rapport aux événements qu'on redoute. Donc on est toujours un peu dans cette même dynamique, et en sachant que il y a un gros risque de voir des comorbidités apparaître, soit de dépression par exemple, soit de dépendance alcoolique ou dépendance à certains médicaments. Et on sait que si on ne le traite pas, on peut avoir à ce moment-là une aggravation des symptômes, et donc c'est de pire en pire. Pour te donner une idée, cette anxiété généralisée, on va la trouver à peu près au niveau de 5%. Et là aussi, c'est plus fréquent chez les femmes, en moyenne deux fois plus fréquent chez elles. Alors là aussi, c'est toujours plutôt les thérapies cognitivo-comportementales qui vont être utilisées. Et là, on peut vraiment utiliser certains médicaments. Là, je vous les cite pas parce que c'est important à ce moment-là d'aller consulter pour voir un petit peu ce qui aurait plus de sens.
Je sais qu'il existe aussi le trouble de stress post-traumatique. C'est pas évident à dire.
Non, c'est pas évident à dire. J'ai dû te briefer avant.
Oui, bien sûr. J'ai des journées de répétition devant le miroir.
Tout à fait.
Trouble de stress post-traumatique. Voilà, je l'ai bien dit.
C'est très bien. Alors là, on est face effectivement à une réaction psychologique face à un événement qui a été vraiment traumatique. Alors il y en existe différents, mais en général où la vie est menacée, où il y a eu beaucoup de violence. Ça pourrait être un accident de voiture, par exemple. Alors les abus sexuels dans l'enfance, ce genre de choses font partie. Un viol peut faire partie de cette dynamique-là. Et donc, on sait que suite à ça, on va avoir chez le patient certains symptômes qui vont apparaître. Des flashbacks, des cauchemars et des pensées intrusives qui vont rappeler en permanence le trauma et qui s'invitent perpétuellement dans ta tête, si tu veux. C'est important d'aller diagnostiquer ce genre de choses pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Il y a des techniques qui marchent vraiment très bien, comme ce qu'on appelle l'EMDR. C'est un système de thérapie qui fonctionne sur les mouvements des yeux. Ça peut être aussi éventuellement de l'hypnose qui peut être utilisée. Enfin voilà, il y a différentes techniques qui permettent de traiter ce genre de situation. Il faut savoir que plus vite on traite le trauma, moins il y a de chances de développer un stress post-traumatique qui peut vraiment devenir aussi handicapant sur une vie ou dans notre fonctionnement.
Avant de se quitter, Pénélope, comment on pourrait conclure finalement toute cette discussion ?
Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est trouble anxieux, c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est important d'aller évaluer de manière approfondie ce qui se passe, et puis d'avoir une approche thérapeutique qui va vraiment être adaptée et intégrée. Et donc, on peut combiner différents traitements, je disais, pharmacologiques ou psychothérapeutiques, qui permettent d'aider à gérer les symptômes et en tout cas d'améliorer tout ce qui est qualité de vie, et donc avoir vraiment un rétablissement qui va faire sur du long terme. Et là, c'est important d'utiliser tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui va être éducation par rapport aux troubles, évidemment, pour pouvoir à un moment reconnaître ce besoin d'aide et donc de pouvoir se faire aider.
Eh bien, merci beaucoup Pénélope pour cet échange, et puis je te dis à très vite pour un tout nouveau numéro de Fun for You.
Eh bien, à très vite et à bientôt, Simon.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.